une semaine d'actualité, Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous que nous vous proposons grâce à la richesse des reportages de la rédaction. Nous allons donc beaucoup voyager, comme d'habitude, une nouvelle fois, et nous serons en compagnie de Yann Mince, journaliste spécialiste des questions internationales, au magazine Alternatives Économiques. Nous ferons escale en Algérie, en Syrie, au Venezuela, au Sénégal aussi, par exemple. Une semaine d'actualité, un magazine que vous pouvez retrouver sur le site de la radio RFI.fr à la rubrique podcast et sur l'application RFI Pure Radio. Bonjour Yann Mince.
Bonjour.
Notre ami Yann Mince, journaliste alternative économique, spécialiste des questions internationales. Je rappelle à ceux qui ne le sauraient pas que vous venez régulièrement dans l'émission pour notre plus grand plaisir, pour commenter l'actualité. Et votre visite est toujours attendue par nos auditeurs qui nous écrivent et nous posent des questions. Qu'est-ce qui a retenu votre attention cette semaine, ces derniers jours ou en ce moment dans l'actualité?
Inévitablement la question algérienne et le sort un peu suspendu de ce pays, suspendu à la santé de son président, qui semble en très mauvais état et mauvais état, j'ai l'impression. Et puis suspendu aussi probablement, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler, aux luttes internes au régime, pas seulement à ce qui se passe dans la rue, mais aux luttes internes au régime et à tous les cercles concentriques, ou plus ou moins concentriques, qui le constituent.
Alors nous allons évidemment parler de tout ça.
Une semaine d'actualité.
Et pour le moment, partons pour la Syrie, Yann, avec la fin des combats à Barouz, notamment à Beyrouth, correspondance régionale de Paul Khalife.
Des centaines de personnes, dont des femmes serrant leurs bébés et des hommes blessés juchés sur des béquilles, ont quitté mercredi Barouz, l'ultime réduit du groupe État islamique, selon une journaliste de l'AFP présente à l'est de l'Euphrate. L'exode des habitants, qui a repris depuis dimanche, a freiné l'assaut des forces démocratiques syriennes, les FDS, soutenues par les États-Unis, contre cette poche d'un demi-kilomètre carré, truffée de tunnels et de tranchées. Profitant de la sortie des civils, quelques 400 djihadistes ont essayé de s'enfuir avec l'aide de passeurs qui s'étaient engagés à les conduire vers une région éloignée. Ils ont cependant été capturés par les FDS. La chaîne panarabe El Mayadin, qui rapporte la nouvelle, indique que des centaines d'autres combattants se sont rendus à la coalition appuyée par Washington. Malgré le départ de 58 000 civils depuis décembre et de centaines de djihadistes, des milliers de personnes se trouvent toujours dans le réduit, totalement encerclées et surveillées en permanence par les avions de la coalition internationale.
Alors continuons à parler de ces derniers jours dans la région, de la situation à Barouz, avec cette fois un des reportages de notre envoyé spécial sur place, Sami Boukhalifa.
Nous sommes sur le Djebel Barouz. Depuis cette colline, seul point culminant de la région, les blindés des forces démocratiques syriennes mitraillent les positions des djihadistes en contrebas. Abrité derrière un tas de pierres, le commandant Mirvan Kamishlo n'a qu'une seule crainte, l'enlisement.
Notre progression est très lente. Il y a une multitude de tunnels, des centaines, voire des milliers de tranchées. C'est la stratégie de Daesh. Les djihadistes se cachent, ils mènent des actions éclairs et retournent aussi vite dans leurs trous.
Son arme à la main, Mirvan Kamishlo reste toutefois confiant. La prise, dimanche, du Mont Barouz marque un tournant dans la bataille.
Le Mont Barouz est une position stratégique. À partir d'ici, avec nos armes lourdes, nous couvrons nos troupes qui mènent les incursions. Nous avons une vision d'ensemble, mais je sais que la bataille va durer encore un bon moment. Parmi les djihadistes, il y a encore des combattants étrangers qui n'accepteront jamais de se rendre.
Au loin, des colonnes de fumée noire s'élèvent de Barouz. Sur les rives de l'Euphrate, le réduit du groupe État islamique fait à peine 1 km². C'est là que seraient retenues les familles, majoritairement des épouses et des enfants de djihadistes.
L'évolution de la situation à Barouz est à suivre dans nos différents rendez-vous d'information. Yann, on avait annoncé la fin des combats à Barouz il y a déjà 15 jours. Finalement, c'est plus compliqué que prévu.
C'est-à-dire qu'il y a une solution militaire qui consiste à noyer la ville ou ce qu'il en reste sous un tapis de bombes, mais ça veut dire aussi de tuer éventuellement des civils qui sont là plus ou moins contre leur gré. On a bien vu comment ça s'est terminé à Mossoul, où c'était du côté irakien cette fois, où effectivement il y a eu des bombardements très violents, et on ne sait pas exactement combien de civils sont morts sous les bombes de la coalition emmenée par les États-Unis. Donc évidemment, écraser un réduit, c'est possible, mais à quel prix de morts civiles ? Parce que, visiblement, il n'y a pas, si j'entends bien le reportage de Sami Boukhalieva, il n'y a pas seulement des combattants aujourd'hui dans Barouz.
Oui. Alors, à chaque fois que j'entends ces reportages, je pense à cette participation des Kurdes au combat, et je me demande s'ils seront récompensés.
Non, sûrement pas, mais les Kurdes ont fait un calcul qui était un calcul un peu acrobatique, compliqué politiquement. Le premier calcul qu'ils ont fait, c'était de conclure une sorte d'accord avec Bachar el-Assad pour qu'il retire l'essentiel de ses troupes de la région, des régions à majorité kurde de Syrie, et qu'en échange, les Kurdes ne participent pas à la coalition contre Bachar el-Assad. Et le deuxième pari qu'ils ont fait, c'était de parier que les États-Unis leur viendraient en aide une fois que l'État islamique serait, en tout cas la partie territoriale, disons, oui, de l'État islamique serait annihilée. Or, je ne crois pas du tout, d'une part, que les Russes vont faire pression sur Bachar el-Assad pour qu'il concède une autonomie aux Kurdes, ce qui veut dire que probablement, une fois que l'État islamique sera vaincu, le prochain adversaire des Kurdes, ce sera l'armée syrienne. Et d'autre part, Donald Trump a clairement fait comprendre que, quels que soient les engagements qui avaient été pris avant lui, il retirerait aussi vite que possible la quasi-totalité des troupes américaines, donc les Kurdes seront à peu près livrés à eux-mêmes. Or, leur deuxième adversaire, en plus du régime syrien, c'est le régime turc. Et les Turcs n'ont absolument pas l'intention qu'une région kurde autonome, et encore moins indépendante, se constitue le long de leur frontière.
Yann, nous parlons ici de la défaite territoriale de l'organisation d'État islamique, ce qui ne veut pas dire que l'État islamique est mort.
Non, l'État islamique a fait quelque chose que Oussama Ben Laden, donc le patron d'Al-Qaïda, dont au final quand même intellectuellement, idéologiquement, si je puis dire, et même un peu plus, l'État islamique est issu, même s'il s'en est séparé. Ben Laden disait, il ne faut pas conquérir un territoire, parce que quand on conquiert un territoire, on est ensuite obligé de le gérer, et on risque en outre d'avoir affaire à une offensive militaire classique, conventionnelle. Donc il déconseillait, d'ailleurs c'est ce qu'il avait fait en Afghanistan. En Afghanistan, c'était les talibans qui gouvernaient, et lui était là comme un invité qui pouvait ourdir ses complots, dont celui du 11 septembre. L'État islamique a complètement fait autre chose. Ils ont voulu conquérir un territoire, ils l'ont fait. Quand je regardais encore il y a quelques jours les cartes, au moment, il y a encore 2 ans, où l'État islamique contrôlait une grande part du nord de la Syrie, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire pratiquement quelques quartiers, ouais, donc ça s'est effondré très vite. Peut-être que l'État islamique a été prétentieux par rapport à ses capacités politiques et militaires, évidemment.
Jours dans le monde.
Yann, il nous faut parler maintenant du retour au pays, c'est-à-dire au Venezuela, du président autoproclamé Juan Guaido à Caracas, Benjamin Delisle.
Le soleil tape fort sur la place Alfredo Sadel à l'est de Caracas. Cela fait déjà près de 2 heures que certains manifestants attendent sans nouvelles du retour de Juan Guaido. Même Roberto Patiño, un proche de l'opposant, n'a pas plus d'informations.
Nous sommes dans l'expectative. A priori, il devrait arriver par l'aéroport de Maiquetia, mais on reste dans l'attente. L'idée, c'est qu'il puisse nous retrouver ici.
Une attente en musique, rythmée aussi par les slogans anti-Maduro, jusqu'à ce que le député Juan Andrés Mejía prenne le micro, sourire aux lèvres.
À l'heure actuelle, il est 12h30, il est déjà sur le territoire vénézuélien.
Plusieurs manifestants peinent à contenir leurs larmes, la peur de voir leur leader arrêté retombe enfin, explique Amalia, les yeux rougis par l'émotion.
Le fait qu'il ne l'ait pas arrêté, ni les militaires, ni personne, ça veut dire beaucoup.
Lorsque Juan Guaido arrive, une foule de manifestants se presse pour l'acclamer. Coti est une opposante de longue date.
Nous sommes très émus par le retour du président Guaido et de l'appui diplomatique qu'il a reçu. Ça donne beaucoup d'espoir parce que tout le chemin parcouru n'a pas servi à rien. On arrive au bout.
Juan Guaido annonce une nouvelle manifestation le 9 mars. Difficile de savoir ce qui se passera ensuite. Le gouvernement a cédé sous les menaces américaines, mais il est certain qu'il n'a pas dit son dernier mot et n'entend pas quitter le pouvoir. Benjamin Delisle, Caracas, RFI.
À suivre, bien sûr, là aussi dans nos journaux, le régime de Nicolas Maduro a contre-attaqué mercredi en expulsant l'ambassadeur d'Allemagne à Caracas pour ingérence. Des signes d'activité ont été détectés sur un site nord-coréen de lancement de fusées, ce qui laisse penser que Pyongyang a entamé la reconstruction de cette installation après l'échec du sommet de Hanoï dont on vous parlait la semaine dernière, selon des experts américains sur la base d'images satellites. À Séoul, mercredi, Frédéric Ojardias nous a tout expliqué.
Les images satellites montrent deux grues qui entourent un bâtiment de transport de fusées posé sur des rails et en train d'être reconstruit. On y voit aussi des travaux de rénovation d'une structure servant à tester les moteurs des fusées. Ces photos, publiées et analysées par deux think tanks américains, confirment les informations des espions sud-coréens qui ont révélé hier que la Corée du Nord reconstruisait son pas de tir de Sohae. Le site était inactif depuis août dernier et les travaux ont débuté il y a quelques jours seulement. Pour l'organisation américaine CSIS, c'est un signal. Pyongyang affiche sa détermination face aux États-Unis qui viennent de refuser à Hanoï d'alléger les sanctions votées en 2016 et 2017. Il ne s'agit cependant pas de préparatifs à un nouvel essai et à Séoul, l'agence d'espionnage assure ne voir aucune reprise d'activité sur le site nucléaire de Yongbyang. Ces travaux sont ainsi un message soigneusement calibré destiné à Donald Trump. S'ils ne provoqueront pas la fin des pourparlers, il rappelle que le régime peut relancer à tout moment ses essais balistiques.
Le Venezuela plongé dans le noir ces derniers jours, y compris les 7 millions d'habitants de la capitale Caracas, il faut le rappeler. Yann, vous signez dans le dernier numéro en date d'Alternative économique, celui du mois de mars, avec sa couverture Startup La Grande Illusion, un papier de deux pages sur le Venezuela avec cet angle très précis de l'hémorragie de sa population. Vous rappelez que plus de 3 millions de personnes ont fui le Venezuela, le pays, depuis 2016.
Oui, c'est en gros 10% de la population qui a fui. C'est considérable quand même, 10% de la population. Ça veut dire que, d'une part, ces gens ont le sentiment que leur situation était intenable. Alors, ce qu'on a vu visiblement, au début, c'était plutôt des hommes célibataires ou des femmes qui partaient pour envoyer de l'argent à la famille sur un processus que nos auditeurs africains connaissent bien. Puis aujourd'hui, ce qu'on voit arriver dans les pays voisins, ce sont des familles entières, donc des gens qui décident qu'il n'y a vraiment plus moyen de faire autrement et qui partent avec une charge très importante quand même pour les pays voisins, notamment au premier rang desquels la Colombie, parce qu'il y a 1 million quand même de réfugiés vénézuéliens qui sont arrivés, ou de migrants vénézuéliens. Après, alors, la question de savoir si ce sont des réfugiés au sens politique du terme ou des migrants au sens plutôt économique du terme est compliquée. Les pays latino-américains ont une convention à eux parallèle à la convention de Genève qui donne une définition en principe beaucoup plus large que la convention de Genève, donc qui pourrait intégrer les migrants économiques, mais jusqu'à maintenant elle n'a jamais été vraiment testée et appliquée sur une crise de cette ampleur-là. Donc on va voir comment les pays les accueillent. Au départ, les premiers mois, la Colombie, le Pérou, l'Équateur ont été assez accueillants. Et puis maintenant, il commence à avoir des tensions sur les zones de frontières.
Il y a rejeté trop, c'est trop.
Parce que les populations des frontières, elles, ont une pression des services publics, la santé, l'éducation, etc. C'est évident que c'est important. Ça coûte de l'argent d'accueillir autant de gens. Il n'y a pas de camp de réfugiés comme on voit dans certains pays africains, par exemple. C'est plutôt comme en Turquie avec les Syriens. Ils se dispersent, si je puis dire, dans la nature. Mais ça fait quand même un point important sur les services publics des zones de frontières, avec dans certains cas, par exemple au Brésil, des attaques xénophobes contre ces migrants.
Donc je recommande la lecture de ce papier, du journal en général.
Merci.
D'ailleurs, Yann, Alpha Idi, qui nous écoute à Conakry, vous pose la question suivante. Qu'est-ce que vous pensez du bras de fer entre la diplomatie américaine et le président du Venezuela? Sur quoi ça peut déboucher?
Alors, je pense que pour l'instant, par rapport à ce que disait Benjamin Delisle dans le reportage tout à l'heure, je pense que Juan Guaido, donc le président autoproclamé, donc qui était président de l'Assemblée nationale et qui a estimé que l'élection de Maduro n'étant pas conforme aux normes démocratiques, il était illégitime et donc que c'était lui, le président de l'Assemblée nationale, qui devait le remplacer de fait. Donc Guaido a été effectivement reconnu d'abord par les États-Unis, puis par un certain nombre de pays latino-américains et puis par des pays européens. Mais en attendant, pour l'instant, il a perdu son pari. C'est-à-dire que, bon, il n'y a pas d'intervention musclée américaine, comme l'avait laissé entendre John Bolton, le conseiller de Donald Trump. Moi, je ne crois pas à une intervention militaire américaine du tout au Venezuela. Bon, l'histoire a plus d'imagination que tout, mais honnêtement, j'y crois pas. Et d'un autre côté, ce bras de fer autour de l'aide humanitaire que Guaido avait lancé en disant on va stocker de l'aide humanitaire aux frontières, notamment à la frontière entre la Colombie et le Venezuela, et on va forcer le régime à l'admettre, et on va surtout contraindre les militaires à choisir leur camp, ça n'a pas fonctionné. Globalement, le régime a tenu bon, les militaires ont verrouillé la frontière, à part quelques, il y a eu quelques morts quand même, mais il n'y a pas eu d'incident massif, disons. Et donc Guaido maintenant se retrouve comme assimilé par le régime à un pion des Américains, un valet des Américains. Donc c'est évidemment, c'est pas très bon en Amérique latine d'être considéré comme le valet du gringo, le valet du junkie américain. C'est jamais très bon. Ça sert la propagande du régime. Et donc, il est pour l'instant inefficace. Donc, tout dépend de ce que va faire la rue vénézuélienne. Est-ce qu'il y a un mouvement populaire massif, constant surtout, qui va l'appuyer, ou est-ce que ça va tourner pour lui en président, peut-être pas d'opérette, mais en tout cas virtuel?
Une autre question, Yann Mince de Dipolite, qui nous écoute, lui, à Cotonou, qui s'interroge sur les relations entre le groupe de télécommunications, l'énorme groupe de télécommunications Huawei, je ne sais pas si la prononciation est exacte, la relation entre ce groupe et les États-Unis à coup de contentieux commerciaux. Là, bon, il faut rappeler que soupçonné d'espionnage potentiel par les Américains, le groupe chinois a contre-attaqué jeudi en annonçant qu'une plainte contre les États-Unis.
Je ne pense pas que ce soit en fait un duel uniquement entre le gouvernement des États-Unis et une firme chinoise. La question, c'est entre autres la nature des relations entre Huawei et l'État chinois. Bon. Si je ne dis pas de bêtises, le Huawei était fondé par un ancien officier supérieur de l'armée chinoise. C'est aujourd'hui une puissance technologique importante.
Oui, avec la 5G.
Voilà. C'est un acteur très important dans les gros réseaux. Et donc, depuis plusieurs années déjà, beaucoup de pays européens regardent Huawei avec à la fois intérêt et méfiance. Intérêt parce qu'il a une puissance technologique, il a des capacités. Il a aussi probablement des prix plus compétitifs que d'autres firmes. Mais avec inquiétude parce qu'on se demande s'il ne sert pas les intérêts de l'État chinois et notamment des services de renseignement en installant dans les réseaux informatiques des dispositifs clandestins qui permettent de capter de l'information au profit des services de sécurité chinois. Et moi, je ne suis pas du tout compétent en la matière. Ce que j'observe, en tout cas, c'est qu'il y a une grande suspicion aux États-Unis, mais aussi dans des pays comme l'Australie qui ont des relations jusqu'ici, en tout cas, plutôt cordiales avec la Chine, ne serait-ce que parce que les Australiens vendent beaucoup de minerais aux Chinois.
Une semaine d'actualité.
Vous écoutez RFI, vous avez raison, une semaine d'actualité qui en est à sa 23e année. On a essayé de calculer le nombre d'émissions, c'est beaucoup plus de 1000 émissions depuis le début, on fera le compte un jour. Et nous allons parler de la France maintenant avec l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron pour les élections européennes. Le président français a décliné une batterie de propositions pour l'Union à moins de 3 mois des européennes, donc dans une tribune diffusée dans les 28 pays membres et adressée aux citoyens du continent, Anthony Lattier.
À quelques semaines du Brexit, Emmanuel Macron dramatise l'enjeu. Si je prends la liberté de m'adresser directement à vous, c'est parce qu'il y a urgence. Pour lui, ça n'est pas de moins d'Europe que les peuples ont besoin, mais d'une Europe plus forte, d'une Europe qui protège. Face aux défis migratoires, Emmanuel Macron propose la création d'une police des frontières communes et d'un office européen de l'asile. Face au désengagement américain de l'OTAN, il souhaite la mise en place d'un traité de défense et de sécurité. Face aux ambitions des entreprises étrangères, il veut assumer une préférence européenne dans les secteurs économiques stratégiques. Sur la table en tout, une douzaine de propositions. Le président français veut aussi instaurer un salaire minimum européen, une banque pour financer la transition écologique ou encore une agence pour lutter contre les cyberattaques. Aucun chiffrage de ces propositions n'est avancé. Ça n'est pas un manifeste politique, mais une contribution au débat, assume un conseiller du président pour qui Emmanuel Macron plante le décor de la campagne européenne.
Autre chose maintenant, Yann, le tribunal de Tokyo a accepté mardi la mise en liberté sous caution de Carlos Ghosn. Il était en prison depuis le 19 novembre dernier. Correspondance de Frédéric Charles.
Carlos Ghosn est sorti du centre de détention de Kosuge, qui est aussi une prison au nord de Tokyo, où sont exécutés des condamnés à mort. Des chaînes de télévision ont diffusé en direct des images de sa libération sous caution. Il est apparu le visage dissimulé, il portait une casquette, un masque sanitaire, des lunettes. Il était escorté de gardiens. Il est monté dans une fourgonnette Suzuki, suivi du haut du ciel par des hélicoptères des médias. L'ex-patron de Renault et de Nissan fait tout pour que son lieu de résidence à Tokyo reste si possible anonyme. Car lui trouver un appartement a été presque aussi difficile que d'obtenir sa libération, nous dit-on. Aucun propriétaire ne voulait d'un locataire aussi encombrant. Carlos Ghosn voit sa sortie de prison comme une première victoire. Le procureur le pressait de passer aux aveux en échange d'une libération, ce qui explique sa longue détention. Carlos Ghosn s'estime victime d'un complot de la part de Nissan lorsqu'il a décidé à fusionner le constructeur japonais avec Renault. reste pour lui à faire la lumière sur les circonstances qui ont abouti à son arrestation, s'il veut éviter la prison.
Suite d'une semaine d'actualité, notez aussi à propos de la France que le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a réclamé mercredi à Paris une enquête approfondie sur les violences policières qui émaillent la crise des gilets jaunes, s'attirant une sèche réplique, c'est le moins qu'on puisse dire, du gouvernement qui dit ne pas l'avoir attendu. Et c'est aussi évidemment le cardinal Barbarin, le plus haut dignitaire de l'Église de France, qui a été reconnu jeudi coupable de non-dénonciation d'agression pédophile d'un prêtre de son diocèse. Il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et donné sa démission. Avant de parler du cardinal Barbarin, un mot sur cette lettre du président Macron qui dit par exemple « Nous ne pouvons pas être les somnambules d'une Europe amolie » et qui met en avant cette Europe qui protège. C'est pour rassurer.
Oui, c'est pour rassurer. Je pense que le président Macron fait quelque chose d'assez compliqué. C'est-à-dire qu'il veut, comme diraient certains philosophes, il veut réenchanter l'Europe. C'est-à-dire qu'il veut redonner redonner à l'Europe la dimension d'un projet et pas seulement d'une technostructure qui produit des règles, alors certaines tout à fait estimables, d'autres un peu plus compliquées, dont on voit un peu moins bien l'intérêt. Mais en tout cas, autre chose qu'une technostructure, un projet politique, dans une certaine mesure, c'est très bien. Oui. Le problème, c'est qu'il fixe des objectifs tellement hauts qu'il risque, comme dirait Édouard Philippe, d'être déceptif, qui est le nouveau mot. Jusqu'alors, on disait décevant, maintenant on dit déceptif, j'ai pas très bien compris pourquoi. Mais en tout cas, je crains qu'entre ce que entrevoit, ce nous fait miroiter Emmanuel Macron et ce qui est possible, il y a une grande différence. Je vais prendre un exemple précis. Il veut visiblement relancer la défense européenne. Le problème, c'est que les pays européens ne sont pas d'accord sur ce qu'ils veulent faire en matière de défense, parce qu'ils n'ont pas la même idée de ce qu'ils veulent faire sur la scène internationale. Je prends un exemple encore plus précis. Les armées françaises sont présentes dans les opérations extérieures en Afrique, dans d'anciennes colonies françaises, au Mali, en République centrafricaine.
On en parlait la semaine dernière, voilà. D'ailleurs, et avec Isabelle Lasserre.
Oui. Je ne suis pas sûr du tout que nos partenaires allemands ont très envie de s'embarquer dans ce genre d'expédition qu'ils considèrent comme néo-post-colonial. Donc, effectivement, c'est très bien de dire qu'on va faire une défense européenne, un conseil de sécurité européen, qu'on va faire même un conseil de protection de la démocratie ou quelque chose comme ça. Mais encore faut-il qu'on soit d'accord sur les objectifs. Et de ce point de vue-là, je ne crois pas que, parfois même, Emmanuel Macron lui-même soit d'accord avec les objectifs qu'il proclame en matière d'asile. Je ne suis pas sûr qu'une politique d'asile européenne, ça soit quelque chose qui soit admissible par Emmanuel Macron. Ça voudrait dire, par exemple, qu'un office européen de l'asile déciderait de qui a droit d'avoir l'asile en France ou pas. Jusqu'à maintenant, c'est une compétence nationale. Et je ne crois pas du tout que les États européens, et surtout la France, aient envie de renoncer à ça au profit d'un office européen. Donc, je pense qu'il y a peut-être un peu de surestimation de ce qui est possible.
Alors le cardinal Barbarin, condamné donc à 6 mois de prison avec sursis, vous voulez faire un commentaire sur cette décision importante ?
Oui, c'est une décision importante. Alors il faut, j'ai bien compris l'affaire, il faut comprendre que le cardinal Barbarin n'est pas le premier à cette fonction, à avoir couvert les agissements de ce prêtre qui a violé des enfants. Je crois que c'est quelque chose qui a eu lieu avant lui, avant le cardinal Barbarin. Mais effectivement, c'est lui qui est mis en cause aujourd'hui. Moi, ce qui me frappe, c'est que il y a eu dans l'Église catholique pendant très longtemps, et il y a encore chez un certain nombre de responsables catholiques, cette idée que l'intérêt de l'institution était plus important que l'intérêt des individus. Et quand je dis individus, en l'occurrence des enfants. Il y a eu cette semaine, j'ai pas encore eu la chance de le voir, mais je crois que c'était très impressionnant, un reportage télévisé sur Arte sur ces religieuses violées.
Oui, parce que c'est un autre dossier.
Par des prêtres. Ou par des évêques. Oui. Je pense que tout ça, c'est la même chose dans une certaine mesure. C'est un sentiment d'abus de pouvoir absolu, d'abus de pouvoir. Et cette idée que de toute façon, même s'il se passe des choses condamnables, l'intérêt de l'institution, y compris pour ceux qui ne les commettent pas, l'intérêt de l'institution est premier parce que l'Église a une mission. Je crois que ça, il est temps que ça finisse.
RFI. France, toujours, Yann, un détenu radicalisé qui a grièvement blessé 2 surveillants mardi matin à la prison d'Alençon, Condé-sur-Sarthe, a été interpellé dans la soirée lors d'une intervention de la police. Sa compagne avec laquelle il s'était retranché est morte des suites de ses blessures. Cet acte violent a déclenché la colère des gardiens de prison dans toute la France. Reportage jeudi à Fleury-Mérogis, au sud de Paris, de Simon Rosé.
Quelques palettes et une dizaine de représentants syndicaux postés devant l'entrée du personnel, ça suffit pour bloquer la plus grande prison d'Europe. Deuxième jour du mouvement à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.
Depuis 6 heures, on prend le même dispositif qu'hier, à savoir on va bloquer toute personne travaillant au sein de l'établissement, que ce soit les collègues, que ce soit les intervenants. Les parloirs également n'auront pas accès à la structure, et ce jusqu'à l'intervention des forces de l'ordre.
Ce matin, l'ambiance est plutôt bonne entre gardiens de prison. On préfère rire ensemble, une façon d'éviter de penser aux deux collègues victime de l'attaque terroriste de Condé-sur-Sarthe. La question de la sécurité des agents pénitentiaires est pourtant au centre des revendications. Didier Kandassami de Force Ouvrière.
Les détenus radicalisés, écoutez, on n'a pas de moyens, on n'a pas de formation, on lui met un gilet pare-balles et un sifflet. Soyons sérieux sur ce sujet. Nous avons des hommes et des femmes qui sont à l'intérieur. Des hommes et des femmes qui vont gérer ces djihadistes. C'est anormal qu'on le mette en difficulté. Il y a une responsabilité.
Une responsabilité du gouvernement qui n'entend pas débloquer des moyens supplémentaires pour les gardiens. Les interventions hier mercredi du Premier ministre Édouard Philippe et de sa garde des Sceaux Nicole Belloubet ont été jugées plus qu'insuffisantes par les syndicalistes. Ils l'annoncent, ce mouvement va donc durer le temps qu'il faudra.
Et arrêtons-nous aussi sur la question des djihadistes qui sont encore en Syrie et plus précisément sur leurs femmes, leurs compagnes. Écoutez par exemple ce reportage de Sami Bourhelifa dans la région de Barouz, on le retrouve, Barouz dont nous parlions tout à l'heure.
Nous sommes dans un point de rassemblement au milieu du désert. Des milliers de silhouettes noires, de femmes en niqab poussiéreux. Parmi elles, une jeune Française assise à même le sol. Autour d'elle, ses trois enfants et ses deux béquilles. Elle a pris une balle à la jambe gauche durant les combats.
On va dire les deux derniers jours, c'était non-stop, des bombardements, des tirs. Ça ne s'est pas arrêté en fait, c'est des corps partout. Des corps brûlés d'enfants, de femmes, d'hommes. Et voilà, et moi je me suis pris la balle en marchant dans la rue.
Blessée, elle a finalement renoncé au califat, mais pas à son idéologie. La jeune femme justifie les exactions du groupe État islamique.
C'est comme ça, tout pays massacre une population dans une certaine guerre, c'est comme ça. Mais on vit dans ce pays et c'est tout.
Originaire du sud de la France, la trentenaire refuse catégoriquement d'être rapatriée.
Ben, on est venu, on va repartir. Pourquoi ? Pour séparer. On est venu, on est là, on est en famille, je repars et après quoi ? Je vais en prison, mes enfants ils sont séparés de moi, ils ne voient plus leur père. Vous voyez, on sait que si on part, on est en prison.
Son mari djihadiste est toujours à Barouz. Ce couple de Français convertis est arrivé en Syrie en 2014.
Alors que faire des djihadistes français ? Mercredi, Édouard Philippe, le Premier ministre, a de nouveau défini la position française dans ce dossier.
La doctrine française a toujours été de dire que les Français qui partaient sur des zones de combat étaient des combattants. Comme nous livrions des combats, ils sont des combattants. Français ou pas, ils sont des combattants contre nous. Lorsqu'ils sont prisonniers, lorsqu'ils ont été arrêtés, ils ont vocation à être jugés et, le cas échéant, punis sur place. Si la situation là-bas venait à changer et si nous devions craindre la dispersion et la libération d'une certaine façon de ces ressortissants français, alors nous pourrions nous poser la question de savoir s'il n'est pas préférable qu'ils soient détenus en France plutôt qu'en liberté ailleurs.
Donc ils pourraient
en liberté.
Dans ce cas-là, ils pourraient revenir.
Mais vous avez bien compris que notre objectif, notre doctrine, c'est de faire en sorte qu'ils soient jugés et, le cas échéant, condamnés sur place. C'est ce qui se passe en Irak. C'est probablement ce qui se passera en Syrie.
J'ajoute que le djihadiste français Mehdi Nemmouch, qui niait les faits en affirmant avoir été piégé, a été déclaré jeudi coupable des 4 assassinats terroristes commis le 24 mai 2014 au musée juif de Bruxelles. Il encourt la réclusion à perpétuité. Dossier délicat que celui du sort des djihadistes.
Bien sûr, mais je suis frappé par une étrange symétrie entre les propos de cette jeune femme.
Qui ne regrette rien.
Qui ne regrette absolument rien, mais comme d'autres femmes djihadistes ou femmes de djihadistes. D'ailleurs,
femmes djihadistes, d'ailleurs.
Femmes djihadistes. Et c'est important parce qu'en fait, on dit souvent femmes de djihadistes comme si elles n'étaient pas adhérentes de la cause.
C'est
alors, d'être elles, non seulement ont adhéré à la cause, mais ont participé à des degrés divers, pas forcément militaires, mais autrement, en faisant la police des mœurs, par exemple, dans certains cas. Mais j'ai frappé dans la symétrie entre ces propos et ce que dit Édouard Philippe. Elle dit, je veux rester sur place parce que je veux pas être séparée, etc. Et lui dit, il faut que les djihadistes soient jugés sur place. Je ne sais pas si elle se rend compte de ce que ça veut dire d'être jugée en Syrie par le régime syrien. Je ne sais pas si elle se rend compte de ce qu'elle risque d'être bien séparée de ses enfants et de son époux, parce qu'ils risquent d'être tous ou exécutés ou torturés, ou les deux successivement, torturés puis exécutés, c'est possible. C'est tout à fait possible. Et de ce point de vue-là, je suis frappé par le fait que le gouvernement français semble disposé à livrer des citoyens français au régime de Bachar al-Assad, que nous avons critiqué, combattu, condamné, et à juste titre, pour les horreurs qu'il commet.
Considérant que ce sont des ennemis de la France, puisqu'ils ont combattu contre la France.
Mais la France et la France se présente régulièrement comme la patrie des droits de l'homme. La patrie des droits de l'homme, ça veut dire qu'on applique un état de droit, et qu'en plus on refuse la peine de mort. C'est pas du tout le cas du régime syrien. Alors évidemment, Édouard Philippe parle de l'Irak, parce que l'Irak, c'est évidemment pas la même chose que le régime syrien. Enfin, cela dit, c'est pas non plus absolument merveilleux, le régime irakien, mais quand les djihadistes seront entre les mains du régime syrien, quand les enfants de cette jeune femme française seront livrés aux sbires de Bachar al-Assad, ça va donner quoi, très concrètement ?
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, merci pour vos messages. Un bonjour aujourd'hui à Mahamadi, à Bamako, à Roger, à Kisangani, à Soufiano, à Niamey. Je salue aussi Gaël à Cotonou, Issa à Conakry et un petit bonjour à Gabi. Elle nous suit à Port-au-Prince, à Haïti et à Tolem, qui dans ce même pays nous écoute, lui, à Léogane.
RFI.
يما كتر من داوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاكل ورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعب
Alors vous l'avez compris, nous allons parler de l'Algérie avec ce fond sonore du collectif d'artistes contre le cinquième mandat, collectif qui s'est créé ces derniers jours. Algérie où le mouvement de contestation contre un cinquième mandat du président Bouteflika a pris de l'ampleur ces derniers jours. Vous suivez cela dans nos journaux. Le président a la rue contre lui et dans son propre camp, des failles apparaissent visiblement. Par exemple, dans un communiqué, la puissante organisation nationale des Moudjahidines, qui regroupe les anciens combattants de la guerre d'indépendance, traditionnel soutien de son compagnon d'armes Bouteflika, a apporté un soutien inattendu à la contestation à Alger, Leïla Berhatou.
C'est pourtant un soutien de longue date. L'Organisation nationale des Moudjahidines, les anciens combattants de la guerre d'indépendance, avait affirmé sa fidélité au chef de l'État le 12 février dernier. Mais hier, dans un communiqué, cette puissante organisation a estimé que les manifestations étaient légitimes parce que les institutions n'étaient pas à la hauteur des aspirations du peuple. Pour l'organisation, il y a, je cite, « collusion entre des partis influents au sein du pouvoir et des hommes d'affaires véreux qui ont bénéficié de manière illicite de l'argent public ». Et ceci, selon l'organisation, c'est en contradiction avec l'appel du 1er novembre, c'est-à-dire avec les principes qui ont sous-tendu la lutte algérienne pour son indépendance. Or, l'héritage de cette période de lutte, c'est l'un des arguments fondamentaux de ceux qui sont à la tête du pays aujourd'hui, un indice de plus que le front des soutiens au cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika se fragilise alors que les manifestations, elles, prennent de l'ampleur.
Alors à suivre évidemment dans nos journaux car la situation évolue vite. Yann, un regard sur cette crise qui monte, cette contestation qui monte, la population, les avocats, les journalistes et pas simplement à Alger.
Oui, bien sûr, pas simplement Alger. D'ailleurs, je crois que le mouvement n'est pas parti d'Alger au départ. Et puis, il a aussi fait florès dans la région dont le président est originaire, dans l'Ouest. C'est un mouvement qui, s'il veut triompher, doit durer. C'est-à-dire que ma conviction, c'est que le clan Bouteflika, comme on dit, c'est-à-dire son frère et puis tous ceux qui sont autour de lui, vont essayer.
Le chef d'état-major de l'armée, le général Salah, vont essayer de jouer
le temps, la montre, et en espérant que les manifestations s'épuisent. Bien entendu, c'est une course de lenteur, si je puis dire, entre le régime et la rue, ou entre une partie du régime, parce que ce qui est de moins en moins clair, en tout cas pour moi, c'est de savoir, certes, on a vu, et Leïla Berhatou l'a dit, que l'organisation des Moudjahidines, qui est importante sur le plan des effectifs et sur le plan symbolique
aussi,
a lâché globalement le président Bouteflika. Mais qu'est-ce qu'il en est de l'armée, des différents services de sécurité, Le général Salah, donc, qui est le ministre de la Défense, enfin vice-ministre, quoi, a le contrôle probablement sur une partie de ces services, mais pas probablement sur tout. D'anciens généraux qui ont été écartés, comme le général Médienne, par Bouteflika ces dernières années, ont peut-être encore des appuis. Mais je crois que la difficulté, c'est de trouver une alternative qui soit présentable à la rue. C'est-à-dire que peut-être effectivement que le président Bouteflika pourrait finir par dire lui-même ou par faire dire qu'il n'est plus en état de gouverner, qu'il est trop fatigué, et personne ne lui en voudrait, je pense. Mais encore faut-il trouver quelqu'un qui puisse le remplacer et qui soit acceptable à la fois par l'essentiel du régime et par la rue.
Alors il y a eu sa proposition un peu surréaliste le week-end dernier quand il a déposé sa candidature de dire que bon, s'il était élu, il proposerait une sorte de référendum sur...
D'abord une longue conférence nationale et puis ensuite une élection anticipée et puis ensuite il ne se représenterait pas. Donc une conférence nationale, si on se débrouille bien, ça peut durer 3 à 4 ans tranquillement. On peut faire un très très grand débat. Ça ne veut pas dire grand-chose et bien entendu la rue, les réseaux sociaux, les gens qui s'expriment dans l'Algérie ont plutôt été sceptiques face à cette proposition.
Et puis il y a cette révélation publiée dans la Tribune de Genève cette semaine. Il serait, le président Abdelaziz Bouteflika, je cite, « sous menace vitale permanente ».
Si l'information est confirmée, ce qui serait le plus sain pour l'Algérie, ce serait qu'effectivement, le président Bouteflika finisse par dire « j'aurais même présenté jusqu'au bout, mais je ne suis plus en état, ma santé a été plus forte que moi, ou la maladie a été plus forte que ma santé plutôt ». Mais j'ai pas l'impression que l'entourage ait très envie de ça, sauf à être acculé. Et on sent pas beaucoup d'entrain du côté du camp Bouteflika à lâcher le manche.
En tout cas, c'est à suivre dans nos journaux et sur le site de la radio RFI.fr, car la situation évolue vite. Yann, je vous propose maintenant une escale au Sénégal. Le Conseil constitutionnel du pays a en effet, sans surprise, proclamé mardi la réélection au premier tour du président Macky Sall, qui a aussitôt annoncé tendre la main, entre guillemets, à l'opposition pour un dialogue constructif, toujours entre guillemets, dès le début de son second mandat le 2 avril prochain. Correspondance de Guillaume Thibault.
Macky Sall a obtenu 2,5 millions de voix, trois fois plus que son adversaire le plus sérieux, Idrissa Seck, second du premier tour, qui obtient 20,5% des voix. Le taux de participation, plus de 66%, permet au président sortant d'asseoir sa victoire. Après son succès, autour d'une large coalition en 2012, Macky Sall voulait son élection, un scrutin qui ne laisse pas de place au doute. Pour parvenir à ce résultat, plus de 58%, le candidat a mis en avant son bilan économique, ses grands travaux qui endettent le Sénégal, affirment ses opposants. Pour sa campagne électorale, Macky Sall n'a rien laissé au hasard. Une véritable machine de communication a été mise en place, 21 jours sur tout le territoire, des meetings géants, des moyens importants comparés à ses quatre adversaires. Le président sortant doit désormais attendre les résultats définitifs de ce premier tour pour engager la suite de ses projets, pour poursuivre son plan Sénégal émergent. Une autre tâche complexe l'attend. Macky Sall, qui veut être le président de tous les Sénégalais, rappelle ses collaborateurs, va aussi devoir relancer le dialogue politique, apaiser les tensions pour gouverner sereinement.
On va commencer, Yann, notre revue de cette actualité, revue rapide de l'actualité en Afrique avec le Sénégal. Démocratie à l'œuvre.
Oui, bon, il y a eu des contestations, mais elles n'ont pas été jusqu'à une contestation dans les tribunaux. Ce qui est très frappant, c'est que les deux candidats qui sont arrivés en deuxième et troisième position n'ont pas souhaité contester devant les tribunaux. C'est-à-dire qu'ils ne sentaient pas probablement qu'ils avaient beaucoup de billes, si je puis dire, pour contester. Alors évidemment, on peut toujours contester ce qui s'est passé avant le scrutin, c'est-à-dire le fait que Khalifa Sall ait été écarté, que Karim Ouad n'ait pas pu se présenter. Là, c'est plus une question électorale qu'une question d'état de droit, savoir si effectivement la justice sénégalaise est indépendante ou pas. Je suis frappé par un point, en tout cas, c'est 66% de participation. C'est une belle participation. Aux États-Unis, ce serait tout à fait exceptionnel, par exemple. Ça veut dire globalement que... affaire judiciaire ou pas, la plupart des Sénégalais en capacité de voter sont allés aux urnes. Et donc, ils croient à cet arbitrage par les urnes. Aussi imparfait soit-il, ils y croient, ils l'ont validé. Et ça, c'est plutôt rassurant.
Donc, le Sénégal a montré une vitalité démocratique
qui ne s'épuise pas, alors que dans des scrutins précédents, c'était plutôt moins bien, la participation.
Quelques-uns de nos auditeurs, Yann, nous ont demandé ce qu'il fallait penser de cette main tendue de Macky Sall à même à Karim Ouad, par exemple.
C'est de bonne guerre, si je puis dire, quand on est vainqueur. C'est assez facile de tendre la main. C'est plus facile de tendre la main quand on est vainqueur que quand on est vaincu. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser très sincèrement. Ce que je crois, c'est que les défis aujourd'hui que le président réélu doit affronter sont des défis beaucoup économiques et sociaux. Il a beaucoup fait d'infrastructures pendant ce premier mandat, des choses très impressionnantes, des ponts, etc., etc., des aéroports, que sais-je. Donc des choses très grandes, très belles, très utiles. Il faut des infrastructures, mais maintenant il faut des infrastructures sociales, c'est-à-dire qu'il faut des budgets pour la santé et l'éducation plus importants. Je crois que le Sénégal est plutôt en retard là-dessus. Nous avions publié dans Alternative Économique un article de David Chetboun qui explique ça très bien dans un numéro sorti à la fin de l'année. Et il manque aussi des investissements privés. Il faut que le Sénégal soit à même d'attirer des investisseurs privés, sénégalais ou étrangers, peu importe de ce point de vue-là. Et là, de ce point de vue-là, ça pêche un peu. C'est bien d'avoir sa structure, c'est une condition nécessaire, mais c'est pas une condition suffisante pour que le développement du pays s'enclenche vraiment.
Alors je vous propose de partir maintenant, Yann, pour la Corne de l'Afrique, pour évoquer le rôle grandissant de l'Érythrée sur le plan diplomatique, qui l'eût cru il y a encore quelques mois. À Nairobi, Sébastien Namet.
Asmara opère un spectaculaire changement d'image sur la scène diplomatique. Autrefois paria, le président érythréen Isaias Afewerki devient incontournable. Pour la première fois depuis 14 ans, des élus du Congrès américain ont foulé le sol érythréen. La délégation comptait John Negus, député d'origine érythréenne, ou encore Ilhan Omar, première élue somalienne. Le passage du président Kenyatta à Asmara a lui marqué la première visite d'un chef d'État kényan depuis 10 ans. Nairobi en profite pour chercher l'appui de ses voisins dans le litige frontalier qui oppose à la Somalie. Là encore, Isaias Afewerki pourrait jouer un rôle. Lors de chaque rencontre, les préoccupations régionales, mais aussi les opportunités économiques, étaient officiellement au cœur des discussions. Selon le chercheur Rachid Abdi, le Premier ministre éthiopien est à la manœuvre. Pour Abiy Ahmed, la Corne de l'Afrique ne peut résoudre ces tensions sans une meilleure intégration économique. Les États se font à cette idée. Kenyatta vient d'approuver ce plan. Il est temps d'y arrimer. Le Soudan du Sud, dit le spécialiste. Ce n'est donc pas un hasard si Ahmed et Afewerki étaient hier à Djouba, un signe de plus montrant le retour d'Asmara sur la scène mondiale depuis la levée des sanctions internationales contre son régime en novembre et le poids grandissant du tandem Érythrée-Éthiopie.
Restons dans la région, dans la Corne de l'Afrique, Yann Mince, restons en Éthiopie. Hier, c'était la journée internationale des droits des femmes, hier vendredi 8 mars. À cette occasion, RFI vous a proposé des reportages sur la situation des femmes dans le monde entier, et des portraits tels celui-ci, celui de la présidente éthiopienne Salewerk Zawde, à Addis Abeba, Vincent Dublanche.
Elle occupe la chambre d'Haïlé Selassie Ier, que son père a servi comme haut gradé dans l'armée impériale. Bac en poche au lycée français d'Addis Abeba en 1967, à 17 ans, la jeune Salewerk part pour Montpellier dans le sud de la France. Elle restera 9 ans dans l'Hexagone. Elle y reviendra entre 2002 et 2006 comme ambassadrice. Entre-temps, Salewerk Zawde est devenue une grande commis de l'État. « Le service public est au cœur de ma vie », expliquait-elle l'an dernier sur le blog du ministère éthiopien des affaires étrangères. Ambassadrice au Sénégal de 89 à 93, elle passe ensuite 9 ans à Djibouti, ses meilleures années de diplomate, dit-elle. Puis vient l'ONU, preuve d'une certaine reconnaissance internationale pour cette polyglotte aussi à l'aise en amharique qu'en français ou en anglais. C'est peut-être l'une des raisons qui ont poussé Abiy Ahmed à la choisir. Pourquoi avoir accepté? Je n'ai pas eu le temps de réfléchir, avoue Salewerk en privé. À 68 ans, cette Amara a probablement aussi servi à équilibrer le partage ethnique des postes de pouvoir. Elle est un symbole très d'union entre les époques, comme Abiy l'est sur le papier, en tout cas entre communauté et religion. Salewerk voit la cohésion nationale comme le principal problème en Éthiopie. Il faudra davantage que des symboles pour s'y attaquer.
Et la présidente éthiopienne sera l'invitée du magazine international demain sur notre antenne. Suite d'une semaine d'actualité, il se passe vraiment des choses passionnantes dans la Corne de l'Afrique. Hein,
oui, il se passe des choses surprenantes.
L'Érythrée, pays fermé par excellence.
La première chose qui s'est passée très importante, c'est une alternance, certes au sein du régime en Éthiopie, mais une alternance qu'on n'attendait pas aussi spectaculaire. C'est une succession en tout cas. J'ai dû dire alternance, c'est peut-être un peu prétentieux, mais disons une succession qui s'est passée et qui a ouvert beaucoup de choses, et y compris le règlement du conflit avec l'Érythrée. Il faut quand même rappeler qu'il y avait eu un arbitrage international en faveur de l'Érythrée sur une question territoriale tout à fait au nord de l'Éthiopie, que l'Éthiopie avait refusé longtemps. Ben maintenant, ça y est, on s'achemine vers quelque chose de beaucoup plus sain. Je crois que les deux présidents, pour des raisons différentes, mais ont en commun cette idée qu'il va falloir développer économiquement leur pays, qu'ils ont besoin pour ça l'un de l'autre, qu'ils ont aussi besoin d'une région stable économiquement, et que du coup, des conflits comme celui du Soudan du Sud, qui n'en finit pas, il faudrait essayer... En tout cas, pas les régler, parce que ça, c'est le problème des Soudanais du Sud. Mais en tout cas, de favoriser ou de pas attiser l'autre chose. L'autre chose importante qui se passe dans la région, c'est l'influence des pays du Golfe. Depuis quelques années, surtout les Émirats Arabes Unis, mais maintenant aussi l'Arabie Saoudite, essaient d'avoir des positions, des bases, y compris des bases militaires, dans tous les pays de la région. Alors certains à Djibouti, d'autres le Qatar plutôt au Soudan. Chacun a ses pions dans la région, ou en Somalie éventuellement, avec des jeux d'influence qui peuvent devenir malsains. C'est-à-dire que, effectivement, les pays de la Corne de l'Afrique peuvent se dire « je m'offre au plus offrant
oui. ».
Mais ensuite, on est dépendant du plus offrant. Et un autre grand pays qui s'intéresse à région, c'est la Chine, à cause de la fameuse route de la soie, c'est-à-dire ces infrastructures qui permettront à terme de convoyer les produits africains vers l'Europe, voire l'Afrique, mais en tout cas en passant par l'Afrique vers l'Europe, et l'inverse, les matières premières d'Afrique vers la Chine. Toutes ces infrastructures, ces ports, etc., que la Chine veut créer, évidemment, peuvent intéresser au plus haut point les pays de la Corne de l'Afrique, qui sont un endroit extrêmement stratégique sur les routes maritimes.
Donc, cette ouverture de l'Érythrée, Sébastien Demet nous le disait tout à l'heure, le rôle diplomatique de l'Érythrée.
Oui, qu'on n'attendait pas forcément là, c'était plutôt le mauvais garçon de la région pendant très longtemps. C'est un petit pays. Alors il faut rappeler que c'est une dictature absolue, que Isaias Fewarki est là depuis des décennies et qui n'a pas l'intention de partir, que c'est un pays qui a inventé le service militaire à durée indéterminable, c'est-à-dire qu'on sait quand on commence, on ne sait pas quand ça finit, qui est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs beaucoup d'Érythréens, de jeunes hommes fuient l'Érythrée, ou des jeunes femmes tombent enceintes pour éviter justement le service militaire. Donc on est quand même dans un régime extrêmement totalitaire. Il ne faut pas oublier cet aspect au profit du fait que maintenant, ça y est, Isaias Fewarki joue l'homme des bons offices dans la région. Il ne faut pas oublier ce que c'est son régime, mais tant mieux s'il évite d'attiser les conflits dans les autres pays, ce qu'il a fait pendant des années au moyen d'un certain nombre de mouvements de guérilla qui soutenaient.
Oui, parce qu'il ne faut pas s'emballer, comme on dit familièrement, parce que un reportage de Léa Lisa Vestaroff sur notre antenne cette semaine nous montrait que, par exemple, au poste de frontière de Zalambessa entre l'Érythrée et l'Éthiopie, qui avait été ouvert le 11 septembre dernier, tout a été bloqué. Donc il y a des...
C'est toujours très compliqué pour un régime qui a été très longtemps fermé, d'ouvrir, même pour le commerce, parce que ça veut dire qu'avec le commerce rentrent aussi éventuellement des idées, sortent
entre
des gens.
Que des idées, hein.
Voilà, et on peut mettre des idées au milieu de boîtes de conserve ou de réfrigérateurs.
Yann, on va terminer avec une information qui n'a pas de rapport avec l'Afrique, mais qui est importante, c'est l'accroissement du déficit américain, que vous avez traité d'ailleurs sur le site d'Alternatives économiques, qui ne fait que s'aggraver.
Oui, en dépit de toutes les proclamations de Trump, de la guerre commerciale qu'il a lancée, et surtout des séries de hausses tarifaires, de tarifs douaniers, donc d'importation aux États-Unis, qu'il a décidé au cours de l'année 2018, surtout contre la Chine, puisque son grand adversaire, c'est la Chine. Il a aussi fait des choses contre le Mexique, contre les Européens, etc. Mais c'est surtout la Chine. Et en fait, le déficit commercial américain s'est creusé encore beaucoup cette année, et notamment en partie à cause de Trump lui-même. Une des choses qu'a fait Trump en même temps que sa guerre commerciale, c'est de baisser les impôts pour les Américains. Donc c'est très bien, les Américains ont eu plus d'argent, les citoyens américains, les contribuables, que ce soit les ménages ou les entreprises.
Donc ils ont consommé davantage.
Ils ont consommé davantage, et des produits non pas America First, non pas faits aux États-Unis, mais bien des produits étrangers, et notamment des produits chinois. Ce qui veut dire que Trump s'est dans une certaine mesure tiré une balle dans le pied. Les Américains épargnent peu, beaucoup moins qu'ils ne devraient. Donc ça veut dire que quand on baisse des impôts, ça profite beaucoup aux entreprises étrangères, voire aux entreprises américaines installées à l'étranger, mais en tout cas pas aux entreprises américaines installées aux États-Unis.
C'est intéressant de le souligner. Merci Yann Mince.
Merci
pour vos analyses appréciées par beaucoup de nos auditeurs. On se revoit dans les prochaines semaines. Je rappelle que vous êtes journaliste au magazine Alternative Économique, dont le numéro de mars vient de sortir. Merci, à bientôt.
Merci, à bientôt.
Une semaine d'actualité réalisée par Sophie Janin. Je vous retrouve quant à moi demain pour le magazine magazine Idée. Nous parlerons, figurez-vous Yann, de la tolérance, une valeur qui gagne à être connue ici et ailleurs. Nous serons en compagnie de Claude Abid, essayiste, chercheuse, professeur, auteur d'un livre sur ce beau thème qui a pour titre « Comment peut-on être tolérant ?». Ça rappelle d'ailleurs une autre question. Donc à suivre demain, la tolérance dans Idée, demain dimanche à 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI. Thank you.